Voilà. Ça tourne en 24 heures, donc on aura un vent de telle vitesse. Enfin, le calcul est facile à faire. On divise la distance par 24 et on divise par 60 et on divise par 60. Et on obtient la vitesse en mètres par seconde très facilement. C'est un vent horrible. C'est une tempête. Or, il n'y a pas de vent d'est tempétueux permanent. C'était l'argument aristotélicien. Mais ces médiévaux, c'était pas loin de moi d'être des imbéciles. Ils se disaient, ouais, mais si la Terre frotte sur son atmosphère, elle finit par entraîner l'atmosphère avec elle. Et le mouvement est partagé par les deux. L'idée du mouvement partagé. Donc, les médiévaux ont lu Aristote, l'ont commenté je ne sais combien de fois, mais c'est surtout pour le critiquer. Ce n'est pas pour l'avaler et puis le rediffuser à des étudiants. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Le Moyen-Âge, c'est la période qui a inventé l'enquête contradictoire. Intellectuelle, j'entends. La recherche intellectuelle contradictoire. Et au départ, même ce mouvement a été plus ou moins initié par l'Église. Et puis, une fois le mouvement lancé, il a échappé à l'Église catholique. Totalement. Bon, ce contexte médiéval de l'espace fait que, est-ce que l'espace est un fait physique ou pas? Bah, à lire les discussions médiévales, on n'en sait trop rien. On ne sait pas trop où on en est. Je reviens à Newton. Espace absolu, indépendant de tous les mouvements qui s'y passent. Une réflexion toute simple, médiévale. Je vais en donner deux. La première, c'est je suis assis sur un banc sur le quai du port de Marseille et je vois passer un bateau. Il y a un marin sur le bateau. Pour moi, le bateau, le marin bouge. Je suis sur le bateau, je suis le marin du bateau. Mon bateau ne bouge pas. C'est le port de Marseille qui circule. C'est tout le décor qui circule. Donc, le mouvement est perçu par rapport à des choses qui sont perçues comme immobiles. Si l'espace est quelque chose de physique, ça ne colle pas très bien avec ce sentiment. Et Galilée a appris cette argumentation, il l'a un petit peu développée, et c'est là que l'on voit par exemple l'argument du boulet qui tombe du haut du mât d'un bateau. Je suis sur le banc, le bateau circule assez vite devant moi, le boulet, qu'est-ce que je vois? Je vois le boulet qui ne fait pas ce mouvement-là, il fait ce mouvement-là. Pardon, vous ne voyez pas? Au lieu de faire ça, il fait ça. Bon. Le marin sur le bateau, qu'est-ce qu'il voit? Il voit uniquement un mouvement vertical vers le bas.
C'est exactement le même mouvement. Je ne sais pas où, vous êtes dans un train, et d'ailleurs, vous pouvez le faire vérifier avec une balle de ping-pong, vous la laissez à l'air, hop, elle redescend. Oui. Le train vous lassera à l'heure, mais bon, de toute façon. Et voilà. Oui. Mais par contre, vis-à-vis de celui qui est dehors et qui regarde le truc, il, bon, bien entendu, c'est.
Tout à fait.
Et comment on explique, enfin, comment on explique ça?
Bon, alors, donc. Cette affaire de relativité qui est la relativité restreinte en fait. L'étude des mouvements eux-mêmes, change de résultat, si on veut les décrire mathématiquement par la géométrie ou par le calcul, ça change selon l'observateur qui regarde le mouvement. Si l'observateur est selon le décor par rapport auquel il est immobile. Ça, c'est une question de mouvement dans l'espace. L'espace n'est pas en cause lui-même. L'espace est encore indépendant. L'espace est encore indépendant des mouvements dans la pensée des gens. Bon, Newton, j'en ai parlé. Et j'en arrive au début du 19e siècle. Avant Einstein, avant Poincaré, avant Lorentz. C'est la définition du mot force, où l'espace est en cause. Chez les intellectuels germaniques en général, l'Allemagne, l'Autriche, l'Europe du Nord, et puis une partie des États-Unis, la force est un pouvoir de déplacer les corps dans l'espace. Plus on va loin dans l'espace, plus on consomme de la force, dans le vocabulaire de l'époque. Chez les anglo-saxons, c'est pas pareil. La force est un pouvoir de faire varier la vitesse des corps. Soit des accélérer, soit des ralentir. Soit de changer l'orientation de la vitesse, l'orientation du mouvement. C'est une autre forme de variation de vitesse. Qui a raison? Ça s'est chamaillé au début du 19e siècle. Et personne, et l'accord ne gère. Les physiciens ne sont jamais tombés d'accord sur cette dispute-là. À un tel point qu'aujourd'hui, eh ben, y a un mot pour désigner le point de vue germanique et un autre mot pour désigner le point de vue anglo-saxon, dans la langue française. Le mot du point de vue germanique aujourd'hui s'appelle énergie et le mot du point de vue anglo-saxon, c'est force. Donc on a le strength britannique et puis le kraft allemand, hein, dont les sens sont séparés. Mais dans l'idée germanique, l'espace lui-même est une force. Un exemple. Je tiens... Très bien ça. La cuillère est sur la table. Elle dispose d'aucune force, au sens germanique du terme. Je la mets là. Je lui donne une force. Je la lâche, elle consomme la force que je vais donner, au sens germanique du terme. Donc au niveau, point de vue germanique, l'espace lui-même, où est une force, où est une source de force. Mais remplacez le mot force des phrases que je viens de prononcer par le mot énergie, et vous avez la définition moderne du travail, d'une force. Aujourd'hui, ça s'appelle une énergie potentielle. Aujourd'hui, ça s'appelle comme ça. Les Français étaient entre les deux cultures. Ah, ils étaient bien embarrassés, les Français. On parlait de force vive et de force morte. La force vive, c'était le point de vue venant de Germanie. La force morte, c'était le point de vue venant de la Grande-Bretagne. Et encore, les physiciens français entre eux, ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Vous imaginez le bazar. Il faut attendre les années 1850 pour que l'affaire se stabilise, se décante, et que le vocabulaire soit fixé. Mais pas avant. Donc, déjà dans cette dispute du 19e siècle, où l'espace n'a rien à voir avec la physique, où l'espace fait partie de la physique. Déjà. Et j'imagine que si Albert Einstein était né en Grande-Bretagne, il n'aurait peut-être pas imaginé la courbure de l'espace-temps alors qu'il est né en Allemagne. Il a baigné dans la philosophie naturelle germanique. Donc, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, si la relativité restreinte inventée par Einstein résulte de la résolution d'une contrainte venant de l'expérimentation et de l'observation, soit en laboratoire, soit dans la vie courante, surtout à propos de la vitesse de la lumière, qui est venue ficher une très belle pagaille dans les idées des physiciens à cette époque-là. Cette vitesse de la lumière, elle a une propriété étrange. Est-ce que vous connaissez le film La guerre des étoiles? Bon, mon exemple n'est pas bon. Je cherche un autre... J'en vois pas... Alors, bon, ben... Dans cette histoire, dans cette saga, il est question d'un vaisseau spatial extraordinaire qu'on appelle le Millennium Condor, piloté par Han Solo, une espèce de poubelle volante, enfin c'est assez rigolo, mais il est capable de dépasser la vitesse de la lumière. Imaginons donc ce vaisseau se déplaçant à 2/3 de la vitesse de la lumière, et à bord de ce vaisseau mesure la vitesse de la lumière à bord, dans un laboratoire de bord du Millennium Condor. On trouve 300 000 km par seconde. On mesure, on fait la même mesure en dehors du vaisseau, sur une planète, bien sagement immobile. Le vaisseau, il circule très vite devant la planète. Et on trouve 300 000 km par seconde. Pile poil. Pas de différence détectable. On ne comprenait pas. Parce qu'on se dit, vous voyez mon bras, imaginons un signal lumineux. En une seconde, il fait ce tracé-là. Si mon bras bouge en même temps, en une seconde, il est là, mais l'extrémité de mon bras a avancé. Donc la vitesse de la lumière ne peut pas être la même si mon bras avance ou si mon bras reste immobile. Ça ne colle pas. Donc, on avait ces points carrés, et puis qui a commencé à proposer une idée suivante. Nous nous sommes trompés sur l'espace et le temps. On s'est trompé depuis des millénaires. Il faut revoir la question. Lorsque l'on change de référentiel, c'est-à-dire de la planète au vaisseau Millennium Condor, le physicien dit on change de référentiel. Bon. Dans les anciennes idées de l'espace et du temps, on se disait les longueurs sont conservées séparément avec les temps qui sont conservés. Je veux dire par là, du point de vue du temps, si nous synchronisons deux horloges en laboratoire sur la planète, on installe une horloge en Millennium Condor, et puis le Millennium Condor, il part. On croyait que les deux horloges restaient synchrones. Le problème de la vitesse de la lumière montre que c'est impossible. Selon le déplacement du vaisseau par rapport à la planète, les indications des deux horloges se séparent, malgré la synchronisation initiale. Donc, on fait fausse route. Mais si les longueurs ne se conservent pas, si le temps ne se conserve pas, existe-t-il quelque chose qui se conserve ?
C'est le rapport des deux,
absolument. C'est-à-dire la vitesse de la lumière. C'est le rapport des deux. Si le rapport des deux se conserve, on peut démontrer. J'avais un diaporama après, mais bon, j'ai eu quelques soucis techniques. Bon, je ne peux pas vous le montrer, peu importe. On peut démontrer, par les seules mathématiques, que dans ce cas, il y a une quantité qui se conserve. Je peux vous décrire laquelle, parce que c'est très important. Les physiciens appellent ça l'intervalle. L'intervalle relativiste. Non, ça ne sert à rien. Pour un signal lumineux, si vous soustrayez C fois T, c'est-à-dire la vitesse de la lumière multipliée par le temps de parcours, vous obtenez la distance parcourue par la lumière, L. Si vous soustrayez L de C fois T, vous obtenez 0. Bien. Si au lieu de raisonner le long d'une droite, je raisonne avec un dispositif orienté n'importe comment par rapport au référentiel, X, Y, Z, on se sert du théorème de Pythagore pour la longueur. Il existe une version 3D du théorème de Pythagore. Vous savez, le théorème de Pythagore, il dit le carré de la longueur de l'hypoténuse était égal à l'addition du carré des longueurs des deux autres côtés du triangle rectangle. Ça existe en 3D pour le parallélépipède rectangle. Donc on additionne le carré le long de l'axe des abscisses, plus le carré le long de l'axe des ordonnées, plus le carré le long de l'axe des côtes, on obtient le carré de la longueur. Donc il faut comparer ce carré de la longueur pour des raisons pratiques de Pythagore au carré de C fois T. Donc, carré de C fois T moins carré de la longueur égale 0 pour la lumière. Mais pour un corps matériel ou pour autre chose qui circule et pas à la vitesse de la lumière, cette différence n'est plus nulle. Eh bien, l'idée de Lorentz, reprise ensuite par Poincaré et reprise ensuite par Einstein, c'est que ce qui se conserve d'un référentiel à l'autre, c'est cette différence de carré. Carré de C fois T moins carré de la longueur parcourue par le mobile. Donc, ça donne une quantité qui est toujours positive, puisque vous savez que aucun corps ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Le vaisseau de Yann Solo n'existera jamais. Le Millennium Condor, c'est la légende cinématographique. Bien. Donc, c'est ce truc-là qui se conserve. À partir de là, on a réinventé la mécanique de Newton. C'est-à-dire qu'on est parti des idées de Newton. La force est un pouvoir d'accélérer les corps, avait-il dit. Donc, on peut définir la force au sens britannique, anglais, en multipliant la masse accélérée par l'accélération produite par la force, F égale ma. C'est ce qu'on appelle la troisième loi de Newton, ou la deuxième loi de Newton, je ne sais plus. Bon, je crois que la troisième, c'est pour le cas où un corps subit plusieurs forces à la fois, avec le parallélogramme des forces, mais je suis hors sujet. Donc, on définissait chez Newton F égale ma. Donc, A, c'est l'accélération, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle les vitesses varient. Bon, on divise une longueur par un temps, on obtient une vitesse. Dans la nouvelle théorie, au lieu de diviser la distance par un temps, on divise la distance par l'intervalle relativiste que j'ai défini à l'instant. La racine carrée de la différence entre le carré de CT moins le carré de la longueur. Désolé, je ne peux pas écrire. Bon, bien, j'espère que tout le monde a compris. Hein, parce que si vous ne comprenez pas un détail, interrompez-moi tout de suite. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup de... Bon. Donc, à partir de là, par des petits calculs que j'ai pu montrer à des élèves de lycée en terminale, ou dans le cadre de notre association Philomath, donc j'ai pu démontrer que dans ce cas, la fameuse formule d'Einstein, E égale mc carré, est démontrée. C'est une conséquence presque directe de cette idée, relativiste donc des mouvements. Mais ce n'est que la relativité restreinte. Ah, relativité restreinte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une relativité plus vaste que... Mais alors, qu'est-ce qu'on a généralisé? Ce qui est extraordinaire, la relativité restreinte est née en 1905. L'année extraordinaire d'Albert Einstein. Ça et puis sur le photon, hein, il avait inventé les deux idées en même temps. À cause d'exigences logiques et expérimentales. Bien. En 1915, il invente la relativité générale. Et là, aucun fait expérimental ne l'obligeait à le faire. Ce n'est que le pur résultat de réflexion intellectuelle chez un physicien de génie. Le point de départ de sa réflexion était la chose suivante. On revient à l'espace. Est-ce que l'espace est quelque chose de physique? Pour Einstein, oui, c'est quelque chose de physique. Et c'est peut-être l'espace qui est responsable de la gravitation. Idée de départ. Mais comment détailler ça? Alors, il est parti de l'idée suivante, pour aller plus loin. Lorsque l'on compare deux référentiels, c'est la planète et le vaisseau de Han Solo. Bien. X, Y, Z, perpendiculaire, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, c'est carré, et pour le temps, c'est la seconde. Très bien. À bord du vaisseau de Han Solo, définit les mêmes axes perpendiculaires, 1 mètre chacun, comme unité de longueur, et toujours la seconde, comme unité de temps. Et un référentiel se déplace à vitesse constante par rapport à l'autre. Mais Einstein a pensé que c'était ça qui était trop restreint. Il faut généraliser à n'importe quel changement de référentiel. Que le référentiel accélère, n'accélère pas, que les axes soient orthogonaux, qu'ils ne soient plus orthogonaux, que l'on change l'unité de longueur des trois axes à volonté, que l'on fasse des coordonnées circulaires ou des coordonnées sphériques à la place des coordonnées x, y, z. Ça doit toujours marcher, ma théorie. Il faut donc inventer de nouvelles formules de changement de coordonnées pour décrire les mouvements des objets. Mais alors, si, prenons l'exemple du théorème de Pythagore en 3D, je disais tout à l'heure, x carré plus y carré plus z carré. C'est comme si je mettais... Il faut imaginer l'image écrite sur une feuille de papier. Imaginez un tableau carré de 16 nombres, tous nuls, sauf une diagonale. 1, 1, 1, 1, 4, 1. Plus exactement, 1, moins 1, moins 1, moins 1. Parce que l'intervalle, c'est C carré, T carré, moins x carré moins y carré moins z carré. Il y a donc une signature particulière. Donc, 1 moins 1 moins 1 moins 1 sur la diagonale, et puis tous les autres termes du tableau non nuls. Ça, c'est l'intervalle dans un référentiel carré. X, y, z pour les axes, et puis une horloge indépendante pour le temps. Pour un autre référentiel quelconque, ce tableau change. Au lieu d'avoir 1, moins 1, moins 1, moins 1, et puis des zéros partout ailleurs, on a d'autres nombres que le 1 et les moins 1, et d'autres nombres que les zéros dans les autres cases du tableau. Ça s'appelle le tenseur métrique, ce truc. Et, à partir de cela, comment interpréter concrètement ce tenseur métrique différent du 1, moins 1, moins 1, et puis des zéros partout? Eh bien, c'est là qu'a dû venir l'idée, l'espace est courbé. Il n'est plus euclidien. Si l'espace est courbé, mais alors, l'axiome d'Euclide, est-ce que vous vous souvenez de l'axiome d'Euclide qui remonte à l'Antiquité grecque, évidemment, vous avez une droite ici, un point là. Combien de droites passent par ce point parallèle à cette droite? Une seule, dans la théorie euclidienne. Et si ce truc-là était faux? Alors on change de géométrie, on n'est plus dans la géométrie euclidienne. Des mathématiciens d'autres, ont inventé d'autres géométries que la géométrie euclidienne. Donc, il y a la géométrie de Lobachevski, il y a la géométrie de Riemann, il y a la géométrie de je ne sais plus qui. Enfin bon, j'ai pas beaucoup étudié ces géométries-là, mais je me suis intéressé qu'à ce problème de courbure.
Bon. Excuse-moi.
Oui, vas-y. Allez, à toi.
Je suis vraiment désolé, mais je vais être obligé de te demander de revenir en arrière.
Oui.
J'ai pas compris le transfert métrique. J'ai essayé de raccrocher, mais j'arrive.
Je vais essayer quelque chose. Si mes élèves de lycée ont compris, il n'y a aucune raison que tu ne comprennes pas.
On va essayer.
Ah, j'en suis certain.
À la hauteur de tes élèves.
C'était
quelle classe?
Terminale. Terminale S.
Denis.
Oui.
Denis, je veux dire...
Vas-y.
Parce que je suis prof de maths.
Oui, mais vas-y. Je fais mon petit tracé pendant ce temps-là. Vas-y. Oui.
En fait, alors, je vais essayer d'expliquer autrement, mais... La relativité restreinte, c'est qu'en deux référentiels, x, y, z, et un autre, x, y, z, sont en translation les uns par rapport aux autres.
Ça, j'ai compris.
Ça, d'accord. Et la relativité générale, c'est effectivement ce qu'a dit monsieur, c'est quand les référentiels sont n'importe comment par rapport aux autres, avec rotation et changement de
référentiel. Aussi.
Et en fait, les coefficients très simples qu'il a décrits dans le cas de la relativité restreinte, moins 1, deviennent 16 coefficients, alpha, bêta, gamma, delta, etc. 16 coefficients qui valent n'importe quel nombre, en fait, qui correspondent en fait au changement matriciel. Tu connais les matrices de Lorentz en 4-4?
Non. Ah. Je l'ai peut-être connu sous une autre forme. Alors, de groupe de points, est-ce que c'est pareil?
Alors, une matrice de Lorentz, c'est une matrice carrée dont il a parlé avec 4 lignes et 4 colonnes. Donc 16 nombres.
Jusque-là, je suis.
Voilà.
Jusque-là, j'avais suivi.
Voilà.
C'est
et
là
donc,
que je commence à
dire. Dans la relativité généralisée, c'est pour ça que c'est effectivement Einstein qui était un génie, ça, c'est pas une nouveauté, à penser quelque chose qui est purement mathématique dans la théorie généralisée, c'est que. Il a imaginé donc deux référentiels qui sont en mouvement n'importe comment l'un par rapport à l'autre, non seulement dans les trois dimensions, mais aussi avec le temps. Et pour passer d'un référentiel à l'autre, il y a une matrice à 16 chiffres qui s'appelle la matrice de Lorentz, qui correspond au changement de variable.
Ah, je commence à entrevoir.
Mais bon, moi je parle de maths parce que je m'y connais, mais cette théorie est purement mathématique en fait. C'est-à-dire, si tu prends un référentiel fixe, là, notre salle, notre référentiel fixe, plus le temps qui passe, hein, plus notre temps, donc ça fait 4 dimensions. Et si un référentiel, comme a dit monsieur, dont le vaisseau doit...
C'est Denis, monsieur, il s'appelle Denis, hein.
Denis,
bon, Denis, voilà.
Donc, le vaisseau qui fait n'importe quoi dans l'espace, donc
qui virevolte,
et dont le temps, dans le temps intérieur change aussi, et bien les coordonnées de ce vaisseau-là, dans notre référentiel à nous, c'est une matrice à 16 nombres, qui s'appelle la matrice de l'ordre.
Alors, mon petit papier est prêt, je peux vous le montrer. Alors, voilà, je le mets ici, tout en haut, première ligne, j'ai pas de crayon ACP, mais je vais faire passer la feuille. Hein, je vais vous faire passer la feuille entre vous. Donc, la première ligne, j'ai écrit S carré, S c'est l'intervalle relativiste. Carré de S égale carré de CT, moins carré de X, moins carré de Y, moins carré de Z. Ça c'est la première ligne. La deuxième ligne, au lieu d'écrire CT, X, Y, Z, j'attribue un numéro à chacune des quatre. Le numéro 0 pour la temporelle, CT. Le numéro 1 pour l'abscisse, X. Le numéro 2 pour l'ordonnée Y, et le numéro 3 pour l'ordonnée Z. Donc, la formule change, elle devient X0 au carré, plus moins 1 facteur de X1 au carré, moins 1 à cause du signe moins de, devant X carré sur la première ligne, moins 1 Y2 au carré, moins 1, j'ai dû le mettre pour l'autre, alors je me reprends, hein, je relis la deuxième ligne, XO au carré, XO, c'est CT, la partie temporelle, plus moins 1 facteur de X numéro 1 au carré. Ça, c'est pour le moins X carré de la formule précédente. Plus moins 1 facteur de X numéro 2 au carré, plus moins 1 facteur de X numéro 3 au carré. Une autre manière d'écrire la formule, c'est avec le fameux tableau du tenseur métrique. Imaginez ce tableau, je vous fais voir ici. Donc imaginez ce tableau carré avec 4 lignes et 4 colonnes. Je pense que j'ai écrit assez gros. Hein. La diagonale c'est 1, moins 1, moins 1, moins 1. Les autres termes c'est 0. À droite, j'ai écrit X numéro 0, X numéro 1, X numéro 2, X numéro 3 sur une colonne. Et sous le tableau, j'ai écrit encore X numéro 1, X numéro 2, X numéro 3 sur une ligne. Pour reconstituer la formule du dessus, vous prenez chaque terme du tableau et vous le multipliez par la coordonnée qui est sur la même ligne et la coordonnée qui est sur la même colonne. Par exemple, le moins 1 sur la deuxième ligne, deuxième colonne, multiplie le X numéro 2 à droite et le X numéro 2 en bas. Le 0 qui est là, multiplie le X numéro 2 à droite et le X numéro 3 en bas. Le facteur est 0. L'effet de la courbure de l'espace-temps, c'est que tous les chiffres du tableau changent, ce n'est plus les 0, les 1 et les moins 1, c'est d'autres valeurs qu'on écrit traditionnellement par la lettre G, je vous dirai après pourquoi le choix de cette lettre G, avec deux numéros, un numéro de ligne et un numéro de colonne. G, indice, I, K. Et c'est la matrice, ça s'appelle la matrice métrique, ou tenseur métrique. C'est le vocabulaire consacré. Je fais passer ma feuille, pour que vous puissiez le voir. Et j'attends un petit peu que vous la lisiez.
Bon, si je
Madame,
commence,
je vous écoute.
Je vais tout bloquer. Donc, si je commence, je terminerai.
Vas-y. Pendant ce temps-là, posez vos questions. Si vous avez des choses à dire, allez-y.
Je suis complètement... Bon, je ne suis pas matheuse, hein. Mais de ce que je comprends, tout ça, c'est comme... Michel, purement intellectuel, c'est-à-dire qu'on n'a jamais l'occasion de prouver, de démontrer dans la réalité que cela est vrai.
Oui.
C'est uniquement des supputations intellectuelles.
Alors, oui, à l'époque, 1915, Einstein. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai.
Je ne suis pas sûre qu'on ait réussi à démontrer ça, et notamment, moi, je voulais revenir
alors,
sur
alors, à ça, je vous réponds tout. Oui.
Cette histoire des pendules. Parce que, alors, bon, j'ai lu, de comprendre. Et je me disais, mais comment se fait-il que des pendules dans un vaisseau spatial sur la Terre, alors déjà je me dis quel pendule on met, c'est-à-dire est-ce qu'on met un cadran remonte, est-ce qu'on met un truc électronique, enfin je ne sais pas quoi.
Alors il faut que je réponde à ça, oui.
J'ai du mal à imaginer, on va imaginer que c'est une pendule remonte avec
des aiguilles. Oui, et des aiguilles, oui.
Pourquoi les aiguilles tourneraient de façon différente? Parce qu'au fond c'est ça, vous dites c'est le temps, enfin, a priori. C'est matériellement les aiguilles qui tournent moins vite.
Absolument.
Bon, si j'ai une montre qui retarde et qui fait que les aiguilles tournent vite, évidemment, j'aurais l'impression que oh, oui, j'ai encore du temps.
Oui.
Mais là, je fais une bêtise, j'ai un rendez-vous. Mmh. Donc, j'irais dire, le changement mécanique, pour moi,
continuez, je suis passé la feuille.
D'incidence sur la notion du temps réel, absolu.
Je fais passer la feuille.
J'ai l'impression que, est-ce qu'il n'y aurait pas un temps absolu qui, lui, n'a rien à voir avec nos petites mécaniques et leur façon de fonctionner?
Oui. Alors, la réponse.
C'est quelque chose que,
oui. Je peux vous donner. Oui, oui, je peux vous donner la réponse des physiciens. La réponse à votre question, c'est non.
C'est non quoi?
Il n'y a pas de temps absolu.
Oui, non, mais pourquoi est-ce
alors,
que.
Alors, le problème.
L'histoire des aiguilles, oui, qui ne tournent pas de la même façon, ça ne peut pas être prouvé, parce que, comme vous dites, on n'a pas prouvé de vaisseau, et sinon, on ne s'est pas,
oui,
amusé. Et même en direct. On
c'est une expérience de pensée.
Voilà, c'est une expérience de pensée. Mais c'est un jeu intellectuel. C'est-à-dire que, un, ça n'a pas de grande utilité. Enfin, ça, c'est sympathique, c'est surtout, oui, des petits cafés chinois comme ça. Ou deux, alors si c'est un plan philosophique, effectivement, on peut remettre en question la création du monde ou des choses comme ça, mais c'est d'une part un jeu intellectuel et d'autre part qui ne peut absolument pas être démontré. Alors que, bon, je peux démontrer certaines choses, par exemple, si je mesure mon appartement, on dit faites 1 mètre carré et tout le monde sera d'accord là-dessus avec même des mètres différents. Enfin, bon. Il y a des choses, c'est sympathique, mais j'y crois plus. C'est un peu l'impression que c'est comme l'existence de Dieu, c'est une création intellectuelle, on n'en sait rien.
Alors, tu veux dire quelque chose? Je réponds, madame, ou
non,
tu...
J'avais une réponse en parlant.
Ah bah vas-y, apporte ta réponse. Comment?
Vous voulez parler des maisons filles et autres particules?
Non, pas du tout.
Ah bon,
non, je voulais répondre directement à la question de madame.
Moi aussi, mais dans ce cas-là,
bon, bah, j'ai une meilleure réponse que la mienne.
C'est pas dit, là. Vas-y.
Ça fera deux réponses pour une question. Il existe des particules élémentaires dont on a pu démontrer, il y en a plusieurs d'ailleurs, on en parle une dont traîne sa peine de maison, on parlera ça, dont la durée de vie est de, alors j'en sais rien, et qui, lorsqu'elle se déplace à une vitesse égale à 99% de la vitesse de la lumière, parcourt une distance que normalement elle ne devrait pas pouvoir parcourir. C'est un peu comme si un escargot disait « Je reviens de Chine ». À pied. Normalement, il serait mort avant.
Donc voilà une réponse. La particule.
Et c'est conforme au calcul.
Oui. Notre ami parle du pion, hein, la particule pi. Moi, je l'ai appris à propos du muon. Et je pas. C'est une autre particule élémentaire. Des élèves. En TPE, en travaux personnels encadrés, il y a quelques groupes d'élèves qui ont étudié justement la désintégration du muon. Le muon a une durée de vie très courte. Lorsque l'on lit dans les tables de la physique la durée de vie d'un muon, c'est la durée de vie du muon quand il est immobile devant vous. Et lorsque le muon apparaît dans l'atmosphère, suite à une collision d'une particule de vent solaire avec un élément de l'atmosphère, il vient vers nous. Donc, entre son point de départ et son point d'arrivée, il y a une certaine distance qui, divisée par C, donc la vitesse de la lumière, donne un temps beaucoup plus long que la vie du muon déclarée dans la table des physiciens. Il faut chercher l'erreur.
Ben oui.
Le problème, c'est que la durée de vie du muon des tables est mesuré avec une horloge qui est immobile à côté du muon immobile. Il faudrait imaginer une autre horloge qui accompagne le muon atmosphérique pendant sa course vers nous. Et elle trouvera un temps beaucoup plus long.
Et est-ce que vous êtes sûr que le muon atmosphérique, c'est le même, ou est-ce que c'est pas toute une suite de... Parce que
la question...
c'est aussi notre regard,
oui,
qui crée la chose. autant.
Oui.
Peut-être que le muon, il vit, il meurt. Disons que nous l'apercevons.
Oui.
Pendant un certain moment. On ne sait pas du tout si, ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après notre perception.
Si.
Perception. Ouais. Et en plus, c'est encore pire quand on est dans l'atmosphère.
Oui, exactement.
J'allais dire, ce qu'on voit, c'est une traînée, donc ça pourrait être une.
C'est exactement ce que j'allais vous répondre.
Qui
oui, c'est exactement ce que j'allais vous répondre. Lorsque l'on voit dans une chambre à bulles, on dit, le physicien dit, oh, il y a un électron qui est passé là.
Ouais.
Faux. C'est pas ce qu'il a vu. Il n'a vu qu'une chaîne de bulles. Point. Interprétation de la chaîne de bulles. Il y a une particule qui est arrivée là, et au fur et à mesure des collisions avec le fluide, il crée des bulles. Sur ce passage, tout en perdant de l'énergie pendant son passage. Ce n'est qu'une interprétation.
On n'a que des traces.
On n'a que des traces. C'est tout ce qu'on peut dire. Vous avez parfaitement raison. Parfaitement raison.
Ça me fait plaisir.
Ah, mais.
Puis-je.
Ah, pardon.
Un intervenant.
Oui, sur ce que disait Mireille, le fait qu'on peut pas, qu'on peut rien démontrer, ben, je pense que ça, c'est quelque chose de général en physique. On ne peut rien démontrer quant à la nature profonde du réel qui est totalement inaccessible.
Inaccessible, inaccessible.
La seule chose qu'on peut faire, c'est construire des modèles mathématiques. Et donc, là, il ne s'agit pas de démontrer quoi que ce soit par rapport à ces modèles mathématiques, puisque par définition, dans tel modèle, on va dire qu'on aura, par exemple, un tenseur métrique avec des coefficients qui auront certaines valeurs. Donc là, il ne s'agit pas de démontrer, c'est quelque chose qu'on pose. Et après, on peut dire, on constate que ce modèle mathématique, colle avec ce qu'on observe. Et après, on ne peut pas démontrer que si le réel qui est derrière correspond vraiment dans sa nature profonde à ce modèle mathématique, puisque ce réel profond est totalement inaccessible.
Donc les mathématiques ne. Ben, on ne peut pas s'appuyer dessus pour dire qu'on va, grâce aux mathématiques, découvrir vraiment ce qu'on appelle la vérité. Quoi. Les mathématiques, c'est un moyen, mais on ne peut que supputer. On suppute l'existence de Dieu, donc on suppute autre chose, on ne peut que supputer. Alors, c'est sympathique, c'est
pour bon, mais ce n'est pas forcément sympathique, hein. C'est tout simplement essayer de s'approcher au plus près d'un réel qui nous échappe. Hein. Mais on progresse.
Hein. Je peux faire le philo.
Je t'en
prie. Ah, pardon.
Après, je reprends la parole.
Oui. Pardon. Bon, dans ce cas-là, je ferai la philo plus tard. Allez.
Non, rapidement.
Bon, hein, très vite fait.
Faire circuler.
Il y a eu une autre expérience qui a été faite. Là, ce n'est pas de la philo, c'est très rapide.
Ah, je mets un mot.
Il y a eu une horloge. Maintenant, on arrive à mesurer le temps avec une très, 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 très grande précision avec des horloges atomiques. Et on a fait l'expérience d'Einstein, des jumeaux de Langevin. Elle a été faite pour de vrai. Une horloge embarquée dans un avion qui fait le tour de la Terre sans escale, et on compare le résultat avec celle qui est restée au sol. Et le résultat est conforme au calcul de
Einstein. Voilà.
Mais du point de vue de l'horloge, elle a bien tourné plus lentement.
L'horloge, mais est-ce que le type qui était dedans,
c'est là qu'intervient la philo.
Parce que c'est là que moi, ça m'intéresse, vous vous rendez compte.
Oui, je comprends. Si c'est là qu'intervient la philo.
Je voulais dire juste un petit truc.
Vas-y.
Je reste dans les
termes. Excuse-nous.
Non, mais effectivement, les maths, c'est un outil pour mesurer, on va dire, le réel. Mais il y a la fameuse formule E égale MC carré, et là, ça le marche. Demandez aux Japonais ce qu'ils
en savent. Ils en savent quelque chose, oui.
Parce que la construction de la bombe atomique est directement. Comment il sortait déjà
Oppenheimer.
Oppenheimer, bien sûr, il a utilisé les travaux de la relativité, et puis ça marche. Demandez à Hiroshima,
la relativité, si j'ai bien compris, c'était seulement à démontrer que c'était possible. C'est-à-dire démontrer que le maximum d'énergie que l'on peut
tirer
de 1 kg de matière qu'on intègre est égal à 8,98 multiplié par 10 puissance 17 joules.
Mais c'est la preuve là.
D'accord, vous pouvez demander comment.
Voilà.
Mais surtout l'enjeu, la philo. Bergson a émis la même objection.
Voilà.
Et ils se sont rencontrés, Einstein et Bergson, et ils ont discuté. Alors, il a, je cite textuellement, je crois que c'est dans les données immédiates de la conscience, lui-même, bon. Si tous les événements de l'univers, c'est Bergson qui parle, étaient accélérés d'un facteur 10, aucun instrument ne permettrait de le détecter. La conscience, c'est toujours Bergson qui parle, aurait imprécis, indéfinissable.
Faites chauffer la colle.
Mais là, c'est la gravitation qui marche.
C'est la gravitation qui marche.
C'est la gravitation de l'univers. La conscience
aurait
une impression indéfinissable de changement. Mais rien d'autre ne se produira. Fin de la citation de Bergson. Et ce que dit Einstein, et ce que Einstein a essayé de faire comprendre à Bergson, mais il n'a pas réussi, ils se sont quittés en pensant chacun que l'autre n'avait rien compris,
oui.
C'est que non, c'est pas vrai, la conscience n'aura aucune impression du tout. Elle suivrait le même mouvement que les horloges.
J'ai besoin que d'un quart d'heure pour finir.
Je vais me...
Voilà. Puisque la courbure de l'espace-temps a été évoquée, question, qu'est-ce qui est la cause? S'il en existe une, quelle est la cause de la courbure de l'espace-temps? Réponse proposée par Einstein, la densité de matière ou la densité d'énergie, ce qui est, chez Einstein, est sur deux notions équivalentes, à cause de la formule E égale mc carré. Ça veut dire quoi? Que plus la densité d'énergie présente quelque part dans l'espace-temps est importante, et plus la courbure est importante. Et Einstein, et c'est le seul à l'avoir fait, a inventé les équations permettant de calculer la courbure de l'espace-temps en fonction de la densité d'énergie ou de matière qui s'y trouve. Petit problème, il n'y a pas que la densité d'énergie présente qui compte, son mouvement intervient aussi pour courber l'espace-temps. Donc, en 1915, cette idée est publiée par Einstein. Bien. Problème. Est-ce que ça correspond à quelque chose de réel? Est-ce que l'on peut vérifier soit la théorie elle-même, soit une de ses conséquences? Et la réponse expérimentale est, cette idée n'est pas fausse. Premier exemple historique. Il s'agit d'un petit problème avec le mouvement de Mercure. Même si on tient compte des corrections de relativité restreinte, il y a encore un petit problème pour comprendre le mouvement de la planète Mercure autour du Soleil. Pourquoi Mercure? Parce que c'est la planète la plus proche du Soleil. Puisque c'est la planète la plus proche du Soleil, elle subit de la part du Soleil la plus forte gravitation par rapport aux autres planètes. Donc c'est normal que c'est là que le petit problème apparaît. Je ne peux pas vous dire lequel. Ce serait beaucoup trop long et je ne maîtrise pas tout. Je vous l'avoue franchement. La solution à ce petit problème, c'est de résoudre, pour ce problème-là, les équations d'Einstein du champ de gravitation. Et on a trouvé des résultats qui montrent quoi? Pour ce mouvement particulier, la théorie d'Einstein n'est pas fausse. Deuxième exemple. C'est la découverte des lentilles gravitationnelles. Qu'est-ce que c'est qu'une lentille gravitationnelle? Eh bien, les astronomes observent une galaxie lointaine. Et puis, ils trouvent un petit amas de galaxies lointaines qui ont une particularité étrange. Elles ont le même spectre. Si elles ont le même spectre, c'est peut-être qu'elles sont de même nature. Mais alors, il faudrait que ces 3 ou 4 exemplaires de galaxies soient rigoureusement identiques. C'est très très peu probable. Ah oui, alors... Les spectres, vous savez ce que c'est? Bon, alors, deux mots sur le spectre. Ça va demander un peu plus d'un quart d'heure, je suis désolé. Bon, voilà. Le premier spectre réalisé en physique, c'est Newton qui l'a réalisé. Dans une pièce noire, les volets sont fermés. Et sur un des volets, une fente qui laisse passer un rayon lumineux.
cette fente arrive sur la face d'un prisme, alors un prisme, c'est ça, avec une face ici. Donc la lumière arrive sur une face, elle est déviée à l'intérieur du prisme et elle ressort de l'autre côté déviée. L'intérêt du phénomène, c'est que l'angle de déviation à la sortie du prisme change avec la couleur de la lumière. Par exemple, si une lumière blanche arrive sur la première face du prisme, elle se sépare en les couleurs de l'arc-en-ciel, à la sortie du prisme. Donc le prisme, il a un pouvoir séparateur d'un mélange de couleurs lumineuses. Ça, c'est le premier spectre de l'histoire. Ensuite, grâce à l'invention de télescopes particuliers, de lunettes particulières, donc on met derrière le prisme, non pas l'œil direct de l'observateur, comme c'était le cas de Newton, ou un écran, on met l'objectif d'une lunette. Et on regarde la fente à travers la lunette. Et qu'est-ce que l'on voit ? On voit le même spectre, mais très élargi. C'est le pouvoir agrandissant, grossissant de la lunette qui intervient. Lorsque l'on réalise un spectre de lampe, une lampe comme ça par exemple, on obtient pratiquement le même spectre que la lumière solaire. Lorsque l'on regarde, à peu près je dis, il y a une différence importante, je vous le dirai tout à l'heure. Lorsque on enferme dans une ampoule de verre de l'hydrogène, un tout petit peu d'hydrogène, il n'y a pas d'air, on enlève l'air, fait le vide, puis on introduit un tout petit peu de gaz hydrogène. Deux électrodes, un générateur de tension constante assez costaud, et de la lumière sort du tube. On met le prisme, on met la fente, alors vous voyez la lampe, comme ça, une fente comme ça, le prisme derrière, la lunette derrière le prisme. On voit le spectre complètement changé. Au lieu d'aller du rouge au violet en continu, on a des lignes verticales séparées les unes des autres. Ça s'appelle un spectre de ray. Comment ? Oui, mais c'est l'arc-en-ciel découpé en morceaux. Découpé en rondelles. Alors imaginez un petit bout d'arc-en-ciel, du noir, un petit bout d'arc-en-ciel, du noir, un petit noir, du bout. Et en plus, si on change le gaz enfermé dans l'ampoule, on obtient des raies également, mais qui n'ont pas du tout la même position. À un tel point que ce spectre de raies sert d'identificateur de la matière lumineuse. Lorsque l'on regarde le soleil avec des instruments améliorés, on voit bien le spectre continu du soleil, mais barré par des lignes sombres verticales. Interprétation. La lumière émise par le corps du soleil donne un spectre continu, mais le soleil est enveloppé d'une masse de gaz qu'on appelle la couronne solaire, qui absorbe une partie de la radiation émise par le soleil, d'où l'origine des raies. Et la position des raies correspond à la position des raies en laboratoire, lumineuse, noire dans le spectre solaire, lumineuse avec une lampe à gaz, et c'est comme ça qu'on a pu identifier la présence, la nature des gaz présents dans la couronne solaire. Et ensuite, on l'a fait pour les autres étoiles, les galaxies lointaines, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que l'on peut se servir de ces spectres comme l'équivalent du code barre dans le commerce. Ça fonctionne. C'est la même logique. Hein, c'est la même logique d'identification. On en revient aux galaxies. Donc, on voit ce petit ensemble de galaxies lointaines. Et puis, devant, on voit une galaxie qui est beaucoup plus proche. Interprétation. Les spectres des galaxies lointaines sont rigoureusement identiques. Mais alors leur forme, plus ou moins bizarre, complètement déformée. Des fois c'est des arcs comme ça, des fois c'est une figure plus embrouillée. C'est pas le beau disque comme Andromède, hein, comme la galaxie Andromède, déformée. Mais alors interprétation, eh bien l'espace-temps est courbé par la galaxie proche. Les rayons lumineux viennent de la même galaxie derrière. Il y a un rayon qui passe au-dessus. Et arrive à nos yeux. Il y a un autre rayon qui passe en dessous qui arrive à nos yeux. Donc on a l'impression de voir une image au-dessus de la galaxie proche et une autre image en dessous de la galaxie proche. Donc c'est une interprétation par la courbure de l'espace-temps, par la matière de la galaxie qui est en intermédiaire, je dirais, de vision.
Ça veut dire que la masse courbe la lumière, c'est ça ?
La densité de matière courbe la lumière. Or, parce qu'elle coupe l'espace-temps.
Oui.
des trous dans l'espace, en quelque
sorte. Non, mais c'est pas autre chose. Mais moi, j'ai toujours dit que les astres, enfin la matière, courbe la lumière. Quoi. Quand un rayon de lumière passe à côté d'une grosse étoile, pop, il est dévié.
Voilà, c'est ça. Et cette déviation, mais c'est pas une déviation directe par l'objet. C'est une déviation due à la courbure de l'espace-temps, elle-même créée par l'objet.
C'est comme si la lumière tombait dans un trou qui était créé par la matière.
Je me permets un tout petit truc. La plus ancienne lentille gravitationnelle repérée, c'est le Soleil. 1919, si mes souvenirs sont exacts.
Oui. Il a raison.
En 1919, la plus ancienne lentille. Non, la première lentille gravitationnelle.
C'est le Soleil lui-même.
C'est le Soleil en 1919, si mes souvenirs sont
exacts. La plus ancienne lampe, comment ?
Lentille gravitationnelle.
Ah !
C'est-à-dire que une étoile qui aurait dû se trouver derrière le Soleil, à l'occasion d'une éclipse totale, a pu être
à côté du Soleil.
Comme étant à côté, si elle était à côté, alors qu'en fait, on savait qu'elle était juste derrière.
Juste derrière. Il a raison, ça m'a échappé.
Mais c'est pas un système dont s'inspirent les fous magiciens pour faire des apparitions de
soi. Je l'ignore. Je ne connais pas leurs secrets.
Des techniques,
les magiciens.
Ils faire apparaître des choses qu'ils ne sont pas, qui sont ailleurs.
Pour pouvoir vivre, et pour pouvoir vivre de leur magie, les magiciens gardent leurs secrets, donc je ne connais pas le secret des magiciens.
Non,
je ne sais pas. Un peu en cacher un autre. Là, je n'ai pas de réponse.
Faire une apparition avec ailleurs,
je n'ai pas de réponse. Donc, cette affaire de l'antigravitationnel matérialise l'espace et le temps dans notre esprit. Ça fait partie de la physique maintenant. Déjà, à cause de ce phénomène.
Bon. C'est une conception.
Et ce n'est pas tout. Il y a encore un autre problème. C'est le problème de l'éloignement des objets lointains. De la vitesse d'éloignement des objets lointains. Le physicien appelle effet Doppler le phénomène suivant. Un véhicule arrive de votre droite, passe devant vous, puis s'éloigne. Le bruit du véhicule, c'est... Le son est aigu quand il vient vers nous. Le son devient grave quand il s'éloigne de nous. Et le son est sa fréquence propre quand il est devant nous. Et bien la lumière présente le même phénomène. Et que les physiciens appellent l'effet Doppler. Donc... Lorsque l'on regarde les objets lointains et qu'on fait leur spectre, on retrouve les raies du laboratoire, comme j'ai dit tout à l'heure, mais décalées, légèrement décalées, souvent vers le rouge, très souvent vers le rouge, quelquefois vers le bleu. C'est assez rare. Interprétation. L'objet dont le spectre est décalé vers le bleu vient vers nous. Un objet dont le spectre est décalé vers le rouge, c'est le muon, il s'éloigne de nous. Et plus la vitesse d'éloignement est grande, plus le décalage est important. En anglais, ça s'appelle le redshift, le décalage vers le rouge. Et des astronomes, dont Hubble, se sont intéressés à la question suivante. Existe-t-il une relation mathématique entre le redshift, c'était le décalage vers le rouge, d'un objet lointain, d'une galaxie lointaine, et la distance qui la sépare de nous. Il y a donc, faut utiliser les anciennes procédés de mesure des distances des objets lointains de nous, et qui est un procédé photographique. C'est-à-dire, considérons une étoile. Alors, première méthode de mesure des distances entre les astres et nous, le parallaxe. C'est de la géométrie pure. Mais quand les étoiles sont trop loin, le parallaxe devient inutilisable. Il faut donc changer de méthode. Alors, la nouvelle méthode, c'est celle-ci. Pour les objets les plus lointains qu'on puisse mesurer au parallaxe, on fait une photo avec un certain temps de pause. La connaissance du temps de pause et de l'intensité de la tâche sur la photo nous donne une idée de la quantité d'énergie lumineuse récupérée par l'étoile par l'appareil photo. Cette quantité est inversement proportionnelle au carré de la distance. On photographie des étoiles beaucoup plus lointaines, il faut des temps de pause beaucoup plus longs, et à partir de là, on estime grossièrement l'éloignement de ces objets lointains.
Bon, donc ça c'est un premier procédé de mesure, et on compare avec le décalage vers le rouge. Et Hubble a démontré, avec de grosses incertitudes de mesure, que les deux grandeurs sont grossièrement proportionnelles. Et donc il y a un coefficient de proportionnalité entre les deux, et qu'on appelle aujourd'hui le coefficient de Hubble, ou la constante de Hubble. Et donc Hubble avait même proposé une valeur numérique de sa constante, d'après ses propres recherches, qui a été corrigée, recorrigée. Il y a eu des désaccords entre astronomes et astrophysiciens sur la valeur numérique de la constante. On est des fois tombé sur des artefacts, ce qu'on appelle des biais de mesure. Enfin, ça a été assez compliqué. Je ne connais pas tous les détails. Mais toujours est-il qu'on a, à 2-3% près, une valeur fiable de la constante de Hubble. Et avec cette constante de Hubble, on mesure les éloignements par la méthode du décalage vers le rouge, pour les objets inaccessibles par la photo. Et on a découvert quelque chose d'assez extraordinaire. Plus les objets sont loin, plus ils s'éloignent vite. Comment expliquer ça? Interprétation, c'est pas les objets qui s'éloignent de nous, c'est l'espace qui se dilate. Comment en être sûr? Problème. Bah oui. Et c'est là qu'intervient la théorie du Big Bang. Et elle est venue d'une drôle de manière. De deux manières. D'abord, le maître, c'était un religieux, d'ailleurs le maître propose le premier cette idée. Son idée était la suivante: à l'origine des temps, l'univers, toute la matière était regroupée en un seul unique atome géant. Bon, il n'était pas question de couvrir de l'espace-temps par cet objet à l'époque, la relativité générale n'était pas encore née. Bien. Depuis le maître, on a oublié un petit peu l'affaire, peut-être à cause de la relativité générale d'ailleurs, puis elle est revenue sur le tapis, cette affaire de naissance de l'univers, accidentellement, deux ingénieurs, Penzias et Wilson, était en train de faire le zéro d'un instrument de mesure. Avant de faire des mesures, l'instrument mesure, il ressemble à une énorme oreille, c'est assez rigolo de le voir d'ailleurs, ça ressemble à une grosse oreille, et puis bon, il voulait faire le zéro de ce machin-là, impossible de faire le zéro, il y a encore un signal. Ils orientent l'antenne ailleurs, encore le signal. Ils l'orientent encore autrement, encore le signal. Et puis, le signal est toujours présent, quelle que soit l'orientation de l'antenne. Ça vient de tout l'univers à la fois. Donc, c'est intéressant. Ils ont fait le spectre de ce signal. Et les spectres ont deux propriétés. Celle permettant d'identifier les substances chimiques, celle permettant d'estimer la vitesse d'éloignement avec le décalage vers le rouge, et puis encore une troisième propriété, déterminer la température de l'objet lumineux. Vous voyez que le spectre, ça sert à beaucoup de choses pour le physicien et pour l'astronome. En effet, depuis une retentissante affaire chez les physiciens qu'on appelle l'affaire du corps noir, sur lequel je ne vais pas insister, on sait, d'après la ligne générale du spectre, c'est-à-dire que sur le spectre, à travers le télescope, imaginons que l'on mette un photomètre derrière. Et puis qu'on balade le photomètre sur le spectre. On obtient une intensité lumineuse enregistrée. La courbe a la forme suivante. Imaginez l'axe des ordonnées ici, l'axe des abscisses là. La courbe ressemble à ça. C'est une espèce d'enveloppe de tous les spectres. Et le sommet, la position du sommet, dépend de la température de l'objet émetteur de la lumière. Alors, à partir de là, on mesure à distance, soit dans des fours de l'industrie, on n'entre pas un thermomètre dans le four, on ouvre la porte du four, on met le spectrophotomètre, on fait le spectre, et puis on dit la température du four est de 2000 degrés. Voilà, c'est comme ça qu'on le déduit. Et c'est la même chose pour les couronnes des étoiles, la surface des étoiles et la surface du Soleil. Donc, on mesure la température du signal venant de tout l'univers avec l'oreille de Wilson et Penzias. Et il trouve une température de 2,7 Kelvin, c'est-à-dire 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu. Partout. Le spectre est uniforme. Apparemment, sur tout l'univers. C'est pas ces deux-là qui ont interprété leur résultat. Ce sont d'autres. Et l'hypothèse émise est la suivante. C'est un souvenir de la naissance du monde. C'est-à-dire qu'à l'origine, dans cette théorie dite du Big Bang, l'univers était d'une densité quasiment infinie, mais pas forcément d'une étendue nulle. C'est difficile à expliquer ça. Il faut imaginer que l'espace serait toujours de dimension infinie, dans toutes les directions, mais se dilate. C'est l'expansion de l'univers. C'est-à-dire que l'espace, non seulement c'est quelque chose de physique que la matière peut courber, mais en plus, il s'étale. Et il s'étale avec une vitesse dont on a reconstitué l'histoire. Lorsque l'on compare les distances et les vitesses d'éloignement des objets, on s'est rendu compte que la vitesse d'expansion de l'espace n'était pas constante, que très probablement il y a eu, à partir de la naissance du monde, une accélération ahurissante de l'expansion de l'espace, suivie d'un très fort ralentissement, et aujourd'hui il y a de nouveau une accélération. Vous avez la parole. J'ai quasiment terminé.
Enfin, je savais un peu tout ça, mais... En fait, ce qui se passe, c'est ça qui est très dur à imaginer, c'est que l'espace repousse les murs du néant.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Alors, ça c'est franchement, il faut arriver. C'est-à-dire que de l'autre côté, il n'y a pas encore de l'espace, même un espace vide, il y a du néant. Mais le néant, c'est même pas de volume, c'est rien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que au début, il y avait effectivement ce petit, l'énergie hyperconcentrée à des milliards de degrés, etc.
Oui.
Et autour, il y avait le néant. Mais le néant, ce n'est pas de l'espace vide, c'est le néant. C'est-à-dire, le volume est zéro. Est-ce que vous arrivez à quoi? C'est même pas du vide, c'est moins que du vide.
C'est une interprétation contestée aujourd'hui.
Oui, voilà, mais moi...
Elle est contestée.
C'est vachement dur à imaginer.
Oui,
ça,
parce que...
C'est quasiment impossible à imaginer.
S'imaginer
que. Écoutons ce qu'il est en train de dire, et puis après on parlera.
S'imaginer que les objets les plus lointains, c'est le bord de l'univers, est une fausse idée. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas le bord de l'univers, c'est l'horizon de l'univers pour nous. Ça veut dire que si il y a des objets plus loin que les plus lointains des objets que nous observons, la lumière n'a pas le temps de nous atteindre. Parce que le temps de parcours sera supérieur à l'âge de l'univers. Donc, nous ne savons pas si l'univers est fini ou infini. On ne peut pas le savoir. Deuxième problème. L'âge de l'univers attribué aujourd'hui est de 13,2 milliards d'années. Comment a-t-on fait pour avoir cette valeur? Eh bien, tout simplement, on a pris le redshift, le décalage vers le rouge le plus important. On se dit, c'est l'objet le plus loin. Donc, c'est l'objet le plus vieux que l'on voit. Ça veut dire que l'objet, on le voit tel qu'il était il y a 13,2 milliards d'années. Nous ne voyons aucun objet plus tel qu'il était de plus que de 13,2 milliards d'années. Au-delà, on ne sait rien. C'est ce qu'on appelle l'horizon de l'univers. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, est-ce que l'âge de l'univers est 13,6 milliards d'années? Réponse non. Pourquoi la réponse est non? Imaginez en pensée un segment de droite. À l'extrémité A du segment de droite part un signal lumineux. Le signal lumineux va vers l'autre bout du segment de droite B. À cause de l'expansion de l'univers, B s'éloigne de A à sa propre vitesse, déterminée par Hubble. Donc, le signal lumineux court après B. Ça veut dire que l'âge de l'univers est certainement nettement plus grand que 13,6 milliards d'années. je crois avoir lu, 43 milliards d'années. Et encore, ce calcul est incertain. Parce que... Voilà, c'est un calcul intégral. Voilà, c'est un calcul intégral.
Le truc bouge.
Voilà, la lumière court après une cible qui s'éloigne de lui. Qui s'éloigne de lui. Donc, c'est une estimation qui est un petit peu difficile parce que la vitesse d'expansion de l'univers en plus n'a pas été constante. Alors, donc, ça, c'est un autre problème. Donc, pour en revenir au sujet de la. Je vais arrêter là parce qu'il y aurait plein de choses encore d'autres à dire, mais ça sort du sujet de ce soir, je pense. En particulier les vibrations au-delà de l'horizon. Enfin, mais c'est hors sujet ce soir. J'arrête là. La conclusion de ma réflexion, c'est eh ben, à cause de ces faits, puisqu'il peut être courbé, puisqu'il s'étend, l'univers, c'est de la physique. Ce n'est pas de l'imaginaire. Voilà, j'ai fini.
Bah écoute, on te remercie, hein, c'était vraiment formidable, toujours comme d'habitude, hein, c'est vraiment, voilà.
Ah, voilà. Il y a de quoi potasser. Hein.
Merci, hein, c'est vraiment, je dirais, très pédagogique. Hein.
Dans mon esprit, juste un petit détail, un point.
Oui.
Un point de détail pour commencer.
Oui. Mais c'est dans les détails qu'il y a l'enfer.
Oui, se cache. Oui, oui, oui.
Et là, il va sortir de la boîte. Non, il y a quelqu'un qui sait, peut-être, l'abélomètre, t'es sûr qu'il date. Moi, je croyais qu'il datait...
Ah, oh, bah attends, je vais la retrouver. Je vais la retrouver.
Je pensais que la bélomètre était postérieure à Hubble.
Alors, je pense que c'est contemporain. Et la bélomètre, c'est aux environs de 1925-1930.
C'est ce que je me disais. Non, parce que je t'ai entendu dire que ça datait d'avant la relativité. Il était du 19e siècle,
Le maître, mais ça, il a sorti surtout vers 1925-1930.
Je crois que son prénom était Pierre.
Il a dû venir vers 1950.
C'était l'américain.
Ah non, on
va voir. Lequel ne s'appelait pas Pierre, d'ailleurs.
Bon, alors,
mais bon, tu ne l'as pas fait.
Bon.
Le maître. Cette histoire des porcs, d'ailleurs, je crois qu'il est à l'origine...
C'est pas
ce mot-là, je crois.
Autant pis, c'est un
fouet d'étail. Il y a un truc comme ça, mais c'est pas lui qui avait mis ça. Bon, je dis des peut-être de bêtises.
C'est
vrai,
tu vois.
Et le maître, il n'était pas religieux, il n'était pas rattaché à un mouvement religieux. Le maître.
Il était un
abbé. Oui, il était un abbé. Et c'est lui qui a dit ça, je crois. Et c'est comme ça qu'est née cette idée de Big Bang. Oui, je pense. Hein. Ah oui, oui.
Ah non, oui, parce que c'est d'ailleurs basé sur les calculs d'Einstein.
Ouais.
C'est que si on pousse les trucs de fin, il fut un temps où toute la matière du monde était réunie. Hein. En un point infinitésimal avec des
faits,
etc.
Eh bien, on pourrait jusqu'à 10 puissances moins
40, etc. Quoi. Ce qui correspondrait à l'histoire de la mesure du temps et de l'espace, ça vient du.
Il est né en 1894.
D'accord, c'est bon, merci.
Il a commencé ses études d'ingénieur en 1911.
Et on parle de qui, là?
De la bélomètre.
Pas de maître, d'accord.
Il a été ordonné en 1923.
Oui, c'était bien un prêtre.
Grâce à une bourse d'Einstein, d'ailleurs, en plus.
Bon.
Oui,
il n'était pas juif, je croyais. Bon, c'est bon, ça, c'est...
Et il est à l'origine de cette expression.
Il a fait ses études à Cambridge en 24-25. Donc la relativité était née, ça c'est incontestable.
Mais cette expression de Big Bang, je crois qu'on la lui doit, mais peut-être je me trompe, hein, je dis peut-être des conneries.
C'est comme les impressionnistes ou les fauves en peinture. C'est un adversaire.
C'est un adversaire.
Je cherche l'année de
Il s'appelait comment?
Je ne me souviens plus. Ça doit être Fred Hoyle. C'était un sobriquet, Big Bang. Enfin, je veux dire, c'était pour plaisanter. C'était pour le dénigrer. On a affaire à eux. Vous faites partie de nous, vous faites démarrer l'univers avec un grand boom, c'est ça?
Et puis c'est resté.
D'ailleurs, nous en reparlerons pas plus tard qu'au mois d'avril, si mes souvenirs sont exacts.
Absolument.
Parce que je crois comprendre que Francis est un chaud partisan de la théorie de Fred Hoyle. Et Denis a fait allusion au fait que certaines idées sur l'expansion de l'univers étaient contestées, des choses comme ça.
C'est pour la science.
Il fait partie de ceux qui contestent, il me semble bien.
D'accord.
Et je pense que ce n'est pas le cas de Gérard. Donc,
ça va chauffer. Ça va chauffer, oui. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les prochaines séances, évidemment, ce sera notre ami Jacques qui va intervenir au mois d'avril, mais la deuxième semaine...
Alors, la première...
Le jeudi 14 avril, et donc il va venir parler des langues, de l'origine des langues, si je me souviens bien.
L'origine des langues.
Non, on en fait deux exceptionnellement, parce qu'on a deux intervenants intéressants, et puis il y a une disputation le quatrième jeudi. Voilà, c'est ça. On ne fera pas ça tout le temps, on fait ça exceptionnellement, parce que là on a.
Donc la prochaine, c'est le 14 avril.
On a le 14, et puis ensuite, on a le... Je ne sais plus combien, ça tombe quand. Le 28, voilà.
Alors, l'expression Big Bang date de 1949, elle est de Fred Hoyle, ça c'est pas un truc.
D'accord.
Et la théorie de Hubble est de 1929. Je cherche la date de Lemaître. En 1927, Georges Lemaître rédige un article dans les annales de la Société scientifique de Bruxelles intitulé « Un univers homogène de masse constante et de rayons croissants », établissant que l'univers est en expansion. De plus, en se fondant sur les mesures des vitesses d'éloignement des galaxies, de Vesto-Slipher et de leur distance établie par Edwin Hubble, Georges Lemaître est le premier à établir le rapport constant entre distance et vitesse d'éloignement. Faut dire que Hubble était un drôle de coco aussi, hein, de ce côté-là. Il fournit une évaluation de cette constante que l'on appelle communément la constante de Hubble. Cette estimation est fournie dans l'article de 1927, mais celui-ci est rédigé en français. Arthur Eddington traduira celui-ci en anglais, traduira l'article en anglais en 1931, mais en omettant, à la demande même de Lemaître, les paragraphes relatifs à la constante du rapport distance-vitesse. La communauté scientifique retiendra donc l'estimation plus précise publiée par Hubble en 1929. Voilà, donc c'est en 1927.
Bon.
Donc allez. Einstein, relativité générale, 15, et relativité restreinte, 1905. Voilà, comme ça on a une chronologie.
Allez, si vous voulez tout savoir, je crois me souvenir que c'est 70 km secondes par mégaparsec.
La constante de Hubble.
Oui.
Quelle mémoire!
Moi, je ne lui savais pas longtemps. Bah, après avoir pris connaissance des textes qu'elle nous avait envoyés, Francis. Et du coup, ça a l'air de rien, mais il a été très stimulant, Francis. Je suis tombé sur plein de machins que je ne connaissais pas, dans le genre des tenseurs métriques de Denis à l'instant. Donc, je me plonge dans les bouquins.
C'est bien. Tu voulais dire quelque chose, Mireille, avant de partir?
J'en ai plein la tête, si bien qu'il va falloir que je fasse le tri. Bon, il restera quand même quelque chose, mais moi je
c'est dommage qu'il n'y ait pas d'enregistrement de film.
J'ai des questions logiques, par exemple. Il y a une idée, mais c'est des idées folles.
Il n'y a pas d'idées folles en physique.
Quand vous dites qu'effectivement vous avez expliqué les prismes déformants, qui donnent des couleurs différentes, avec des fois des hachures. Et c'était grâce à ça qu'on pouvait mesurer l'éloignement. Or, d'après ce que j'ai compris, la nature chimique de ce qui peut être entre l'observateur et ce qui est observé peut modifier cette impression.
Oui.
Alors, peut-être que cette impression d'éloignement qu'on peut avoir ne pourrait-elle pas être expliquée tout bêtement par un écran invisible, imperceptible, mais d'une nature physique telle...
Un biais. La chasse au biais est l'activité la plus importante des physiciens.
Oui.
Ça leur demande beaucoup plus de temps que les découvertes les plus intéressantes.
D'accord, c'est plus dur lorsque je...
La chasse au biais, ça a été le cauchemar de certains physiciens, de Joule en particulier. Il y a passé énormément de temps parce que le biais chez Joule, ce sont les pertes de puissance dans les moteurs électriques qu'il étudiait, entre autres. Bon. Effectivement, on a pensé à un biais de ce genre et le biais a été rejeté, l'idée du biais a été rejetée pour la raison suivante. Lorsque l'on fait en laboratoire un spectre de raies, les raies sont très fines, premièrement, séparées par de grands espaces noirs. Bon. Donc, la position de la raie... Pardon ?
Les raies sont noires et les grands espaces qui les séparent sont colorés.
La lampe au laboratoire, les raies sont lumineuses et le fond est blanc et noir.
Ah oui, d'accord, là c'est artificiel.
Le spectre solaire, le fond est lumineux et les raies sont noires.
Ok.
Bon. C'est un spectre d'absorption pour le soleil, c'est un spectre d'émission pour les ampoules en laboratoire. Les lampes au laboratoire. Donc les raies sont extrêmement fines. La mesure des fréquences des raies sont très précises. Et la précision augmente encore, même aujourd'hui, avec le perfectionnement du matériel. Alors, le fait est suivant. On prend 25 raies, parce qu'elles sont nombreuses. Hein. Bon. Et puis on va au-delà du visible. On va dans l'infrarouge, on va dans l'ultraviolet, on peut même aller jusqu'au rayon X, voir les rayons gamma, pour les spectromètres modernes. Bon. Donc on étale le spectre, donc c'est pas une petite dizaine de raies visibles que l'on a, mais c'est des centaines de raies que l'on a. Donc, pour une matière de nez, on mesure 25 raies. Chacune, une fréquence. On analyse les fréquences. Et on analyse de l'intensité de la raie pour chaque fréquence. Bien. Donc on a un chiffrage et un calibrage serré. On regarde un objet lointain. On trouve exactement les mêmes fréquences, toutes augmentées de 30%. Le taux d'augmentation est le même pour toutes les raies. Si c'était un artefact, on aurait des raies de décalage différent du décalage des raies de l'objet qu'il y a derrière l'artefact. Donc les physiciens sont capables de séparer des raies d'absorption venant d'un artefact, s'il y en a un, des raies d'émission, des raies d'absorption de la couronne, de l'étoile ou de la galaxie, ou des étoiles de la galaxie qu'on observe. Donc on fait la chasse au biais. Hein. C'est un vrai problème. C'est du latin. Un fait artificiel.
Donc un élément.
Et encore, le mot, je l'utilise mal le mot. Parce que dans l'artefact, il y a art qui est artificiel. C'est-à-dire que ce sont des biais de mesure en laboratoire dus aux gestes des expérimentateurs. Tandis que dans l'espace, c'est des biais. C'est-à-dire que, par exemple, un nuage de gaz ou de poussière entre une galaxie lointaine et nous crée des raies supplémentaires et qui n'ont pas le même décalage vers le vert ou vers le bleu ou vers le rouge que les raies de l'objet qu'on observe derrière.
Mais là, je discute.
Et justement, c'est là l'intérêt de la soirée.
J'irais dire que là, vous imaginez par exemple, un genre de nuage, un obstacle.
Un obstacle, oui, tout à fait.
Qui serait circonscrit. Mais imaginons que ce soit toute une nature de la matière, d'une partie de l'univers que l'on n'a pas pu analyser. C'est-à-dire que là, toutes les raies sont pareilles. Parce que ça ne serait pas un accident dans le parcours. Vous comprenez ce que je veux dire?
Je n'ai pas compris la question. J'ai du mal à saisir le...
Il y a une matière dans laquelle, une matière dans laquelle baignerait tout l'univers.
Voilà.
Ah!
Voilà.
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 Alors,
ça serait pas vraiment.
Alors,
habillé, ça serait...
C'est peut-être moi-même qui ai induit cette idée dans votre tête faire exprès. C'est à cause de l'usage des spectres pour mesurer la température de surface des objets. Puisque je vous ai dit l'axe des ordonnées est là, l'axe des abscisses est ici, puis la courbe elle ressemble à ça, avec une bosse, une unique bosse dont la position dépend de la température de la source. Bon, un vrai spectre comme le spectre solaire, lorsque l'on fait ce genre de courbe, on trouve cette bosse, cette ligne, bien sage, très simple, mais découpée de creux. Plein de creux qui la hachent littéralement. Chacun de ces creux correspond à une raie d'absorption des gaz qui enveloppent le soleil ou qui enveloppent l'étoile. C'est comme ça qu'on interprète le spectre. Donc, le spectre nous donne trois informations, hein, comme je disais tout à l'heure. Les creux, on situe les pointes des creux qui nous donnent les fréquences des matières qui absorbent la lumière émise par l'étoile derrière. Deuxième information, le décalage de ces fréquences par rapport aux fréquences de laboratoire, qui nous donne une idée de la vitesse de rapprochement ou d'éloignement de l'objet par rapport à nous. Et la troisième information, la hauteur de la bosse, la température. Voilà. Voilà. Alors, pour ce qui est de la matière hypothétique baignant tout l'univers, les physiciens l'auraient vu. L'éther. Voilà. Alors l'histoire de l'éther. Voilà. Alors l'histoire de l'éther, il a été éliminé par Einstein. Il a été éliminé par Einstein comme étant une hypothèse inutile.
Simplement. C'était une hypothèse fausse.
Non, inutile. Pas fausse, inutile. Absolument. On n'a pas besoin de l'éther pour comprendre ce que l'on voit dans l'univers.
Mais l'éther, c'était pas pour expliquer la vitesse de la lumière qui était constante, et on disait elle se balade dans...
Non, c'est pas pour la vitesse de la lumière, il faut remonter au 19e siècle. Remontons au 19e siècle, à l'époque puisque la loi de gravitation universelle de Newton est née dans l'Angleterre de la fin du 17e siècle, et dans la philosophie britannique, comme type de force, il ne connaissait qu'un seul type de force, les forces de contact. La cuillère bouge parce que je la touche.
Ah oui, d'accord.
Je ne peux pas faire bouger la cuillère comme ça à distance.
Ah.
Voilà. Hein. Je ne suis pas Madame Soleil. Hein. Bon, voilà. Donc, les forces exercées à distance, pour le Britannique de l'époque, ça n'existe pas. Donc, les Britanniques imaginaient que la matière sortait des masses, se propager dans l'espace, entre en contact avec les autres masses, et pour une raison à l'époque inconnue et aujourd'hui toujours inconnue, puisque l'éther est abandonné, l'objet qui reçoit le flux d'éther réagit en se rapprochant de l'émetteur de l'éther. C'était un peu bizarre, un peu étrange, mais on pensait... Voilà, tout simplement parce que le physicien britannique était incapable d'imaginer un espace vide dans lequel existe un pouvoir d'accélérer les objets. Il ne pouvait pas l'imaginer. Par contre, dans la philosophie germanique, c'est exactement le contraire. Dans la philosophie de la nature des cultures germaniques, il peut très bien exister dans l'espace vide de matière un pouvoir d'accélérer les corps. C'était parfaitement concevable.
Oui, mais Newton,
alors, on t'écoute, Michel.
Il était anglais, absolument.
C'est lui qui a trouvé la formule epsilon mm prime sur Descartes.
Oui.
Lui, il savait alors, dire que les corps s'attiraient sans se toucher.
Hypothèse, tous les corps s'attirent.
Oui.
C'était pour expliquer les résultats de Johann Kepler.
Non, mais d'accord, mais lui qui était anglais, voilà. Il n'était pas allemand. Hein.
Bon, il était anglais, bien entendu.
Il concevait bien qu'il n'y avait pas de contact.
Newton...
Il concevait bien qu'il y avait le vide.
Il ne pouvait pas le concevoir comme tous les Britanniques de son époque. Ce qui explique pourquoi Newton n'a pas écrit un mot sur le comportement de l'espace autour des objets. Il ne pouvait pas.
L'espace était absolu et indépendant.
Il ne pouvait pas imaginer les choses autrement. Donc, même Newton, même s'il n'a rien écrit là-dessus, même s'il n'a rien dit là-dessus, dans ses conférences ou dans ses cours de mathématiques ou de physique en Angleterre, ça a dû travailler. Très probablement, ça a dû travailler. Comment la formule est née, la formule que vous venez de citer, comment elle est née? Première étape, Kepler hérite des résultats de son maître Tycho Brahe. Il ajoute les résultats de ses propres observations pour en déduire ses fameuses trois lois sur le mouvement des planètes. Alors, la première loi, c'est le...
La loi des airs,
tout ça. Oui, la loi des airs, hein, bon, d'accord.
Et les ellipses, tout ça.
La deuxième loi, c'est les ellipses. Et la troisième loi, c'est les dimensions des ellipses.
Oui,
qui sont indépendantes de la nature de la planète. Non, Newton apprend ses résultats, évidemment. Et comme c'était un matheux, d'abord, la première chose qu'il a fait, c'est de mettre au point une formule permettant de calculer les dimensions des orbites à partir de la période. C'est tout. Il n'y a rien de physique là-dedans. C'est des maths pures, appliquées aux résultats des observations de Kepler. Et c'est tout.
Je peux
Oui.
Non, attendez, très bien. Je comprends ce que vous dites, bien sûr. Mais que c'était un matheux qui l'a trouvé la formule,
oui.
Mathématiquement, on va dire. Mais d'accord, mais il ne disait rien. Mais Newton, ça m'étonnerait qu'il pensait qu'il
y avait... certainement qu'il y a pensé au problème.
Qu'il y avait une espèce d'éther de liquide ou je ne sais pas quoi.
Il y a certainement pensé, mais on ne sait rien sur cette pensée. On ne sait rien.
Il ne disait rien.
Il y a Alain qui veut dire quelque chose.
Oui, pardon. Deux petites choses. Sur l'éther, non, Newton n'a jamais parlé de l'éther à ma connaissance. Il considérait, comme tous les physiciens de son époque, que toute force était une force agissant par contact.
Par contact.
Il faisait une exception qui était l'attraction universelle. Donc il pensait qu'elle était instantanée. D'ailleurs.
Oui.
Bon, mais le plus important, pour répondre à la question, l'éther, c'est à cause des ondes électromagnétiques. Ce sont des vibrations, les vagues dans l'océan. Oui, mais alors, comme elles se transmettent du Soleil à la Terre et qu'entre le Soleil et la Terre, c'est du vide, qu'est-ce que c'est le milieu qui vibre comme...
Qu'est-ce qui vibre ?
Ils ont donc appelé ça l'éther.
L'éther.
Et ensuite, vers 1880, il y a des physiciens qui se sont demandé si... Il s'appelait Michelson et Morley.
Michelson et Morley.
Qui se sont demandé si... Oui,
c'est le problème qui a fait que...
Ils se sont demandé si on ne pourrait pas essayer de mesurer le mouvement absolu de la Terre
par rapport à l'éther.
Et pour ça, ils ont eu une idée extraordinairement astucieuse, j'entrerai pas dans le détail, mais c'est génial. Je crois que c'est Fizeau qui a inventé la méthode. Ils ont envoyé un rayon lumineux dans une direction, et puis ils l'ont fait revenir, et ils ont envoyé un rayon lumineux, le même en fait, c'est avec un miroir semi-réfléchissant, dans la direction perpendiculaire, et ils l'ont fait revenir. Et ils ont comparé. Normalement, on doit avoir une petite différence entre les deux,
oui.
Selon le principe de Galilée. Bon, pas de différence. Michelson, qui a commencé tout seul, s'est ensuite adjoint les services de son collègue Morley. À eux deux, ils ont continué l'expérience pendant des années. Je crois qu'ils ont fait ça pendant 6 ou 8 ans, enfin, je ne sais plus. À la fin, c'était sûr, certain, la vitesse de la lumière était la même, quelle que soit la façon dont on les mettait. C'est-à-dire que, alors que Bjørn Borg se trouve dans un wagon de chemin de fer, il envoie sa raquette dans la même direction que le wagon. La raquette fait du 100 km/h, le chemin de fer fait du 150, la balle par rapport au quai fait du 250. Et s'il l'envoie dans l'autre sens, la balle fait du 100 km/h, le train, mais cette fois-ci dans l'autre sens, fait du 150, et là, la raquette fait du 50, toujours dans la direction du train, du point de vue de celui qui est sur le quai.
Ouais.
Et bien, ça ne marche pas pour le rayon lumineux. C'est toujours du 300 000 km par seconde. Et ça, c'est pas normal. Du coup, il y en a des qui se sont dit, surtout un qui s'est dit Poincaré, et un autre, Einstein, qui se sont dit, faut peut-être refaire une géométrie qui tiendrait compte de ça.
Et plus besoin d'éther.
Et du coup, bien sûr, puisqu'on ne pouvait pas avoir devant des terres, tant pis, on s'est trouvé des terres, ça ne servait plus à rien.
Oui, je t'en prie, Michel, vas-y.
Alors, parce qu'on va en parler un peu filou. Enfin, oui. Moi, le problème philosophique, j'arrive à le concevoir, mais je n'y arrive pas non plus, c'est cette histoire du néant, en fait. Parce que je connais. Ça fait longtemps que je m'intéresse à tout ça. Et donc, l'univers, on va dire, pour parler un peu bêtement, je ne sais pas comment dire, repousse les murs du néant. Mais alors moi, je n'arrive pas du tout à le concevoir.
Bien sûr.
J'arrive à le concevoir mathématiquement, mais pas du tout à l'imaginer.
Oui.
C'est pratiquement un infini. C'est-à-dire que, j'en ai parlé tout à l'heure, l'univers est en expansion, repousse les murs du néant, d'accord, mais là, il n'y a pas de vide, il n'y a pas de volume, il n'y a rien, c'est le néant. Et moi, je n'arrive pas du tout.
Non, je ne dirais pas c'est le néant. Je ne dirais pas c'est le néant. Je dirais qu'on a dépassé l'horizon de ce qui est visible. C'est tout ce qu'on peut dire. On n'a pas de réponse à cette question-là. On n'a pas de réponse.
D'accord, mais alors justement, je voulais en venir à ça. Mais si l'univers est infini, on va dire, la théorie du Big Bang,
elle marche très bien même. Je vous explique. Je vais vous donner un petit exemple dans cette pièce. Imaginons qu'on puisse voir les grains de poussière qu'il y a dans cette pièce. La densité de grains de poussière, elle est faible, puisqu'on n'est pas gêné, mais elle est uniforme dans toute la pièce. Imaginez une dilatation du volume de la pièce. La densité des grains de poussière diminue au fur et à mesure de l'expansion. Mais ce raisonnement qui tient pour le volume de cette pièce peut très bien tenir, le même raisonnement, pour une densité de grains de poussière dans un espace infini dans les trois directions. Imaginons
une densité de grains de poussière, j'ai bien dit, c'est une expérience de pensée que je dis là, hein, imaginez donc une densité uniforme dans tout l'espace, lequel espace est infini dans toutes les directions. Vous imaginez ça. On constate que la densité des grains diminue. Interprétation. Tout en étant infini, l'espace est en expansion. D'où l'éloignement des grains les uns des autres. Une autre analogie. Imaginez que je pose sur cette table une nappe élastique. Bien élastique. Je mets 3 objets sur la nappe. Je mets un gars là, un gaillard là, un gaillard là, et puis moi je suis là. Et tous les 4, on tire la nappe en même temps. Comme elle est élastique, elle s'étend, et en s'étendant, elle entraîne les objets qui s'éloignent les uns des autres. Imaginons maintenant que ces objets soient habités par des astronomes qui mesurent le décalage vers le rouge des objets, et ils constatent le décalage vers le rouge, et qui est proportionnel. Par exemple, un astronome est là, il mesure le décalage de la cuillère, il voit le décalage de mon téléphone. Et il se rend compte que le décalage de mon téléphone est supérieur au décalage de ma cuillère. Interprétation, eh ben c'est les 4 gaillards qui tirent la nappe et éloignent les objets. Imaginons, poursuivons notre idée. Au lieu qu'au début la nappe occupait juste une dimension de cette table, imaginons que la nappe n'ait pas de limite. N'a pas de limite, va vers l'infini, dans les deux directions d'espace. Nous, on est là, on attrape l'espace là, lui là, il l'empoigne et il tire. C'est toute la nappe qui se dilate et entraîne tous les objets qui l'occupent. Ça, c'est l'interprétation actuelle la plus à la mode chez les physiciens et les cosmologues.
Alors, ce que vous dites, excusez-moi, ça me fait passer à la fameuse conjecture de Poincaré. Vous savez...
Je connais mal. Là, je vous écoute, je ne connais pas.
Mais, alors, imaginez une forme, un volume, n'importe lequel.
Oui.
Si on imagine... Il faut imaginer que les frontières du volume, n'importe comment, partent à l'infini.
Oui.
Eh bien, la forme colonna sera isomorphe à une sphère de rayon infini.
Oui.
C'est la fameuse conjecture de Poincaré, c'est ça, qui a été démontrée par le mathématicien russe en 2006.
J'ai pas du tout suivi cette affaire.
Ben,
là, vous me la prenez.
Voilà, oui. Ça me fait un peu penser à ça. C'est-à-dire que, à la fois, on imagine un espace fini et infini. C'est-à-dire que l'infini serait la limite de quelque chose de fini qui part à l'infini.
Oui. Moi, je pense à autre chose.
Mais,
en mathématiques,
oui.
L'inversion d'un cercle. Si le centre de l'inversion est sur le cercle devient une droite. Si j'ai bonne mémoire. Le cercle est de dimension finie, mais la droite est de dimension infinie. On a bien une relation biunivoque entre les points du cercle fini et les points de la droite infinie.
Oui, c'est la trigonométrie en fait.
C'est un peu le
déroulement, le déroulement de le cercle sur une droite en fait.
Non, c'est pas le déroulement. L'inversion, c'est pas ça. C'est une transformation géométrique.
Oui, mais.
Avec un centre d'inversion.
Attendez, répétez depuis le début.
Oui, de mémoire, c'est ma mémoire de lycée, parce que je n'ai jamais étudié le problème depuis le lycée. Mais au lycée, on apprenait les transformations géométriques, les translations, les rotations.
C'est la composée de deux réciproques, de symétrie et de translation, c'est l'histoire comme ça.
Non, ce n'est pas ça encore, c'est encore autre chose. On avait appris l'affinité, on avait appris l'inversion. Alors, l'inversion, ça... Voilà. Ce point-là est centre d'inversion.
Oui, oui.
Imaginons un point ici, sur cet objet. On mesure la distance.
Oui.
On calcule l'inverse de la distance.
Oui.
D'accord.
Oui, d'accord.
D'accord. Et on obtient une nouvelle longueur qui est un point situé ici. Mm-hmm. Ça s'appelle l'inversion parce qu'on fait l'inverse de la longueur.
L'inverse de la longueur.
Voilà.
Oui, c'est
voilà. Alors l'inverse d'un cercle, et naturellement il y a un centre d'inversion.
Oui.
Donc l'inverse de ce point-là, il est par là, l'inverse de ce point-là, il est par là.
Et le centre, le point.
Voilà, et l'inverse, si je pose mon crayon sur une sphère, l'inverse de la sphère est un plan. De mémoire. Je ne pourrais pas vous le démontrer, mais c'est un résultat qui lui reste dans la mémoire.
D'accord.
Voilà. Mais Et puis j'ai oublié quelque chose. Quand j'ai dit, j'ai fini, j'ai oublié l'actualité. On a détecté les ondes gravitationnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement l'espace est physique, il peut être courbé, mais en plus il vibre.
Mais d'accord, mais moi, alors là, ce soir, j'ai vraiment appris quelque chose, parce que ça, sans jouer les prétentieux, je connaissais 98% de ce que vous avez dit.
Oui.
Alors les 2%, là, j'y avais pas du tout pensé. C'est que moi, et c'est hyper important, mais je vous remercie, parce que moi, j'avais pas du tout pensé que l'univers pouvait être infini, comme
oui.
Là.
Et le paradoxe, c'est qu'il aurait été tout.
Je pensais que les physiciens pensaient qu'on repoussait les limites du néant, mais que l'univers, il avait le diamètre 13,7 ou 43 milliards d'années.
Voilà. En fait, c'est que le diamètre de l'horizon.
Oui, mais on s'en fout, en fait. Ça revient au même. Ouais. Enfin, du 43 milliards ou 13 millions, on s'en fout. C'est-à-dire que le diamètre était fini.
Ce que t'appelles l'horizon,
c'est un nombre fini.
Oui, c'est ce qu'on peut voir.
J'ai toujours pensé qu'ils en étaient encore là, que le diamètre était fini, 13 milliards ou 43 milliards,
on s'en tape. Non, c'est pas comme ça qu'on pense.
Quand même, et que le reste, on ne savait pas que c'était le néant. Oui. Et vous êtes en train de dire qu'on ne sait pas là.
Il peut très bien être infini de tous les côtés. Mais par contre, ce que l'on ne sait pas encore très bien, la courbure de l'univers est de quelle nature à l'échelle de l'univers? Est-ce que c'est une courbure positive ou une courbure négative? C'est-à-dire, est-ce que l'univers ressemble à une sphère, la courbure positive, ou à une selle de cheval, la courbure négative? Si c'est la sphère, il est fini, l'univers. Une sphère est d'une dimension infinie. Une hypersphère à 4D est une dimension. Mais on ne sait pas si c'est comme
vous
ça.
Vous ne vous êtes jamais intéressé à la conjecture de Poincaré, c'est
non.
Incroyable.
Non, non.
Mais c'est ça, c'est ce que vous dites.
J'avais peur de me disperser parce que j'ai tellement de sujets de.
Exactement ça, c'est isomorphe donc avec des équivalences et des bijections.
J'ai pas beaucoup exploré la topologie. Je vous dirais franchement, c'est un domaine qui m'a plus ou moins fait peur.
Il y a un isomorphisme mathématique.
Oui.
Isomorphisme veut dire
Même forme.
Même forme, voilà.
Isomorphé, oui.
Entre une forme dans les frontières potentielles infinies et une sphère de rayon infini.
Oui.
Et c'est exactement ce dont vous avez parlé tout à l'heure.
Oui.
Mais alors, moi, je n'ai pas du tout pensé à ça.
Ah oui.
Mais Einstein, il connaissait Poincaré, évidemment.
Bien sûr.
Oui.
Et je me demande si Poincaré n'a pas participé au congrès Solvay, d'ailleurs. Au congrès Solvay. Je ne sais pas s'il y était.
En tout cas, je ne me souviens pas de la photo, de l'avoir vu sur la photo.
Tu ne l'as pas vu sur la photo. Bon, là, il était peut-être pas.
Il y aurait été, j'aurais remarqué.
D'accord.
Non, mais la topologie mathématique de Poincaré, elle est très importante. Dans cette histoire de
mais je la connais mal. J'avoue que je la connais mal.
Moi aussi, je la connais mal. Oui. Parce que la démonstration de Perelman fait 3000 pages. Et 3000 pages sans calcul.
Oui,
Que chaque fois qu'elle avait le calcul, il écrivait trivial.
Calcul trivial.
De 3 km.
Oui, d'accord.
C'est-à-dire, elle a enlevé tous les calculs et ça fait 3000 pages. Donc déjà, c'est du délire. Quoi.
C'est pour ça que je n'ai pas du tout exploré ça.
Oui, d'accord.
Pas du tout. Et sur 3000 pages, la probabilité qu'il y ait une erreur est très importante pour moi.
Oui, mais alors...
Parce que le cerveau humain n'est pas totalement fiable.
Vous vous rappelez qu'il y a eu la médaille de Fields en 2006, on en a énormément parlé.
Oui, mais je n'ai pas su de quoi il s'agissait. Je n'ai pas compris.
Franchement, vous n'avez rien lu sur ça?
Non, pratiquement pas.
Pour une fois qu'on parle vraiment de maths, parce qu'on en a beaucoup parlé.
Oui.
Et rien, vous n'avez pas...
J'ai pas exploré du tout cette chose-là, j'avoue. Mes centres d'intérêt ne s'éloignent pas beaucoup de la physique, ne s'éloignent pas beaucoup de cette idée de courbure de l'espace-temps.
Oui, mais je n'ai
pas exploré la théorie des cordes. Elle me fait peur.
Non, mais
j'ai peur de ne pas tout comprendre, tout simplement.
Non, mais attendez, personne ne comprend. Parce que
c'est pas exploré.
Perelman, il a travaillé 40 ans sur ça. Il n'y a que lui qui comprend en fait.
Oui.
Mais ça, c'est pas le problème. Mais ça n'a pas fait tilt la conjecture de Poincaré que vous avez pas entendu.
Le nom me disait quelque chose, mais j'ai pas exploré.
Non, pas Perelman, Poincaré.
De Poincaré, oui, je parle bien de Poincaré. Le nom me dit quelque chose, mais je n'ai pas exploré, ça, je l'avoue.
Mais comment ça vous disait quelque chose de Poincaré?
Poincaré, tout le monde connaît. Oui, bon, et j'étais professeur de physique en lycée.
Oui.
Bon, j'ai dit bavarder avec mes collègues, mes collègues matheux en particulier. Et dans nos conversations, l'expression conjecture de Poincaré est tombée dans nos conversations.
Oui.
Donc, cette expression, je l'ai en mémoire, mais je n'ai pas exploré sur sa signification.
Il n'y a aucun collègue qui vous a dit à peu près ce que c'était? Non.
C'est des lacs, mais si je puis me permettre,
oui.
Un médaillé field français du nom de René Thom.
Oui, oui.
Les catastrophes.
A été interviewé sur la démonstration du théorème de Fermat. On appelle ça théorème de Fermat, on aurait dû l'appeler conjecture de Fermat, parce qu'il est hautement improbable que Fermat avait réussi à le démontrer. Oui. Vu que la démonstration par un matheux américain a fait une cinquantaine de pages, pas 3000 mais quand même 50, et on a demandé à René Thom, dans cette interview, radio-diffusée, ce qu'il en pensait. Il fait « Oh, je ne l'ai pas lu, j'en ai pas pris connaissance, de toute façon, je ne pense pas que je serais capable de la comprendre. » On est trop spécialisé.
Ben, oui,
texto. Mais, non, et c'était un métaillé fil en maths. Bon, on est parfois un peu... Il est normal que dans une discussion entre physiciens, effectivement, qu'il y ait une question de maths intervienne, et puis que... Oui, tiens, il y a un truc. Mais effectivement, bon.
Oui.
Mais, ah oui, je voulais dire un truc là-dessus aussi.
C'est pour ça que c'est très important, finalement, que des gens puissent se rencontrer, discuter.
Discuter.
Parce qu'on ne peut pas tout savoir.
Le congrès solvait... tant que j'y réfléchis. Hein. Même si, en fait, plusieurs des physiciens qui ont participé au congrès solvait doivent leur succès à des travaux strictement mathématiques. Donc ils se sont dit ensuite, quelle peut bien être l'application pratique de ça. Le cas le plus spectaculaire, là je cite, comment il s'appelle, Étienne Klein, c'était, Dirac, Paul Dirac.
Oui.
Il se fait ses statistiques, son idée c'était d'essayer de concilier la théorie de la relativité et la mécanique
quantique. Restreinte.
Et il arrive à quelque chose, enfin il arrive à des équations qui peuvent s'interpréter de deux manières, physiquement cette fois-ci. Il y en a une des deux manières, c'est il y a des particules qui remontent le temps.
Il y a une particule qui remonte le temps.
Et l'autre manière de l'interpréter physiquement, c'est il y a une particule à énergie, à énergie électrique négative, comme un électron positif, par exemple.
C'est pas ce qu'on appelle antimatière.
Si, c'est ça.
Exactement. Mais Dirac n'a pas prononcé antimatière. Il a parlé de lacune.
La deuxième solution, pour la seule raison qu'il la trouvait plus jolie.
C'est intéressant comme argument.
On peut être physicien, mathématicien et esthète.
Il y a Jacques qui voudrait dire quelque chose.
C'est purement irrationnel.
Oui.
Le plus joli, c'était parce qu'il y avait davantage d'invariants.
Je connais une anecdote avec Marcel Dassault. Quand les avionneurs lui proposaient le modèle d'un nouvel avion, il disait, cet avion n'est pas beau, poubelle. Cet avion, il est beau, on le construit.
Ça peut être possible.
Il y a Jacques qui veut dire quelque chose. Allez, vas-y.
Pour en revenir à la théorie de la relativité restreinte dont on parlait au début, la fameuse équation E égale mc2, donc elle dit qu'il y a une équivalence entre énergie et matière. Donc ça veut dire que, par exemple, à partir d'énergie, on peut créer, par exemple, une paire électron-positron. Donc ça veut dire qu'on a mettons, un point donné, on a un électron qui part d'un côté, un positron de l'autre côté. Alors, mettons, par exemple, l'électron part par là, et là, on a le positron, et puis s'il y a un autre électron qui arrive là, il peut s'annihiler et se transformer en énergie. Alors, il y a une autre façon de voir les choses. Si on voit le positron comme un électron qui remonte le temps, on peut dire qu'il y a un électron qui part de là, là, il s'arrête, il remonte le temps, et après, il revient en sens normal.
Tu le dis mieux que je ne l'ai dit, effectivement. Oui. Il disait un électron qui remonte le temps ou un électron positif.
Oui, donc peut-être qu'en fait, les deux électrons qu'on voyait comme deux électrons séparés, c'est peut-être le même qui fait un zigzag comme ça dans le temps.
Histoire que trois ans plus tard, un Écossais a découvert l'électron positif en question.
Oui, et donc on peut imaginer que peut-être qu'en fait il n'y a qu'un seul électron dans l'univers, que c'est le même qui fait plein de zigzags comme ça. C'est peut-être pour ça que les électrons sont tous pareils, parce que peut-être en fait c'est le même, qui fait des zigzags dans le temps.
Oh, ça fait penser à la nouvelle réfutation du temps par Georges Louis Borges dans un recueil d'essais et d'articles intitulé Enquête. Dont le titre espagnol est Otras Inquisiciones, mais il a été traduit non pas par Autres Enquêtes, mais Enquêtes, parce que le premier Inquisiciones n'avait. Enfin, il n'est jamais sorti d'Argentine. Je ne sais pas pourquoi il a été perdu avant de pouvoir être traduit.
En tout cas. Bon,
le... je peux rajouter une dernière chose.
Oui, je t'en prie, vas-y, vas-y. Ce que tu dis, parce qu'on doit libérer la salle à 30, mais il est déjà 37.
Ce que tu dis, vous savez, ben, justement, c'est les histoires, on ne peut pas démontrer que c'est faux. Vous savez qu'il y a.
On ne peut que démontrer que c'est faux ou que c'est pas faux. C'est tout ce qu'on peut faire.
Vous savez qu'on peut imaginer aussi qu'il y a une seule galaxie. Et que le reste, oui, ce sont des reflets.
Le palais des glaces.
J'ai parlé de ça, cette histoire. Qu'il y a une seule galaxie, et ce qu'on croit être une autre galaxie, en fait, c'est le reflet d'un miroir. Vous avez entendu parler de ce truc-là?
Oui, tout le même spectre, si c'était le cas.
Bon, vous voulez quelque chose d'encore plus rigolo dans le genre?
Oui.
Je l'ai sorti pour plus tard que l'autre samedi, d'ailleurs, ce truc-là.
Oui, mais je pense
que finalement... Pardon.
Je t'en prie, vas-y.
Peut-être que finalement l'univers n'a qu'une seule dimension. Ouais. Bah oui, quoi. Vous regardez la télé, que vous voyez quelque chose qui. Une émission des gens qui discutent. Et à l'origine, qu'est-ce que c'est? Seulement une série d'impulsions électromagnétiques. Donc on peut reconstituer une impression d'univers multidimensionnel, quadri, avec une seule dimension. Peut-être que l'univers n'a qu'une seule dimension. C'est d'autant plus facile à imaginer si on imagine discontinu. Ça tombe bien, il l'est peut-être.
C'est la théorie des boucles de spin.
C'est la théorie de
des boucles de spin.
Ah oui, d'accord.
En mathématiques, mais que la mathématique ne reflète pas forcément la réalité. La réalité, c'est une chose.
En tout cas, je vous remercie d'être venu.
Oui,
c'est vrai. Alors, j'ai enregistré évidemment notre conversation, notre petite conférence et nos échanges. Et je vous rappelle quand même que le dernier échange avec Francis Sanchez est sur le site, grâce à notre ami, évidemment, Jacques, qui fait un travail admirable sur ce site. Et donc là, s'il le souhaite, je serais ravi qu'il puisse se mettre sur...
Il faudrait le copier par une carte.